au-delà de tous les mots qui vont être prononcés ce soir. Vous venez de voir la raison toute humaine pour laquelle nous nous battons. Gloire à la classe ouvrière et aux travailleurs qui n'ont jamais renoncé à défendre le bien commun de la patrie, sa capacité de travail, son inventivité, son bien productif. Je déclare, puisque c'est à moi qu'on a confié de prendre la parole le premier ce soir, ouvert de la campagne que le Front de gauche, alternative à la politique actuelle, lance contre l'austérité. Ne croyez pas qu'il s'agisse seulement d'une campagne en quelque sorte politiquement conjoncturelle, parce que nous serions mécontents de ce qu'il n'y aurait pas assez de ceci ou trop de cela. Ne croyez pas que ce soit une campagne dans laquelle le Front de gauche, en quelque sorte, se substituerait à l'action syndicale qui aura lieu dans sa responsabilité avec ses organisations. Non. La campagne contre l'austérité, c'est la campagne pour le droit des peuples à vivre et pour chacun d'entre nous d'organiser son existence pour vivre et non pas seulement pour survivre, comme c'est le résultat de ce qu'il faut voir lorsque cette politique s'applique. C'est une campagne où nous prenons la mesure de l'histoire et de notre responsabilité face à notre peuple, à notre patrie et à l'Europe. Comme elles sont inconscientes, ces élites prétentieuses, arrogantes, ces têtes d'œufs qui savent tout mieux que les autres, qui ont toujours eu raison, ils ne se sont jamais trompés, et qui ont plongé le vieux continent dans ce moment où ceux qui commandent semblent ne rien voir de ce qui est en train de mûrir dans les profondeurs obscures du ressentiment populaire. La Grèce, pour la 5e année, est en récession du fait des remèdes miracles qui lui ont été appliqués. Elle a perdu 20% de sa capacité de production. La Grèce compte 27% de sa population au chômage. 58% de sa jeunesse n'a plus d'avenir ni d'espoir visible. L'Espagne entre dans la 4e année de récession. Le Portugal dans la 2e. L'Italie dans la 2e. Et voici qu'alors même que les dirigeants tout puissants du FMI, le Fonds monétaire international, conviennent dès même un peu tard, après avoir fait tant de dégâts en Amérique du Sud, où ils ont été justement châtiés par les votes populaires, en Afrique, où du fait des politiques d'ajustement structurel et de l'action de l'Union européenne contraignant tous les États à abattre leurs barrières douanières pour être submergés par les marchandises produites à plus bas coût ici, en sorte que partout, les États se sont effondrés, les armées ont cessé d'être payées et transformées en bande de pillards. Qu'ensuite, il faut aller courir ici ou là, éteindre des incendies juteux, dont on est la principale cause et les principaux responsables, que ce soit au Mali ou ailleurs. Pour maintenant, que ces tout-puissants reconnaissent qu'ils se sont trompés dans leur calcul. Mais nous, qui n'avons pas leur arrogance et leur prétention, n'avons-nous pas dit, dans cette campagne présidentielle, puis législative, que le peuple français avait le choix d'ouvrir un autre chemin pour lui-même et pour l'Europe? Et j'affirme que le peuple français a fait ce choix, car il a voté au premier, puis au deuxième. quatrième tour en se rassemblant pour écarter Nicolas Sarkozy du pouvoir. Pour ce soir renégocier les traités européens, et ils ne l'ont pas été. Il a voté pour que la finance soit mise au pas, et elle ne l'a pas été. Et c'est au moment où chacun peut faire ce constat de lui-même, en ouvrant un journal, en regardant, en se renseignant, que c'est un échec universel de ces politiques-là. Et que tandis que ceux qui votent en Amérique du Sud réduisent la pauvreté, augmentent le nombre des gens instruits, augmentent l'espérance de vie en bonne santé, c'est tout le contraire qui se produit dans la vieille Europe, qui pourtant est la zone la plus riche du monde. Telle est la réalité, pauvre France. Voici qu'aujourd'hui, elle bat le record du nombre des millionnaires en dollars. En France, c'est ici qu'ils sont les plus nombreux. C'est ici qu'ils crient le plus fort, qu'ils pleurent le plus fort et qu'ils prétendent emmener leur patrie à la sommet de leur censure. Voilà qui ils sont.
Barroso.
En même temps, la France n'aura jamais eu autant de pauvres, 8 600 000. Et c'est au moment où tout cela saute aux yeux et fait ce choix absurde de la politique dite de l'offre. C'est à moi de vous en expliquer en un mot ce qu'elle est. Elle revient à faire une confiance aveugle au marché plutôt qu'à la raison humaine. Elle consiste à dire qu'à coup de publicité, du moment qu'on produit n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, sans aucun sens de la responsabilité écologique, alors le pays finira par aller mieux. C'est le vieux théorème de l'ancien capitalisme auquel s'était adaptée la social-démocratie des années 70 qui disait « Les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain et les emplois d'après-demain. » Mais nous qui avons analysé le capitalisme de notre époque et qui le comprenons mieux que ceux qui dirigent notre pays, nous savons que les profits d'aujourd'hui sont les placements financiers de demain qui détruiront les emplois d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain et d'hier. Voilà ce qu'est cette politique. Conduit à vouloir à plus de force faire baisser, paraît-il, le coût du travail, c'est-à-dire son prix. Et le prix du travail, qu'est-ce que c'est? Le droit pour les salariés, femmes et hommes, de pouvoir vivre dignement de leur travail, se soigner correctement, partir à la retraite lorsque le moment est venu, que les enfants soient éduqués, car le programme commun du peuple ne va pas au-delà de ces quelques mots simples et de la part de bonheur qu'ils contiennent. Mais cela nous serait refusé pour souscrire sans cesse à une foi aveuglée qui voudrait que les puissants, du moment qu'ils encaissent de l'argent, ensuite touché par la grâce, se mettent à le placer pour le bien commun. La démonstration est faite, mes amis, que les deux années passées, il y a eu plus d'argent distribué en dividendes qu'il n'y en a eu en cotisation patronale. Plus d'argent distribué en dividendes qu'il n'y en a eu de placé en investissement productif. Par conséquent, nous affirmons solennellement qu'une société qui viendrait à accepter de se laisser guider par la cupidité de la fraction la plus avide de ses membres, va directement à la ville. C'est à autre chose que nous croyons, et c'est à autre chose que nous nous préparons, que nous vous appelons toutes et tous à maintenir dans votre cœur votre espérance et votre combat quotidien total confiance. Oui, nous sommes prêts à tout moment à relever le défi qui consisterait à gouverner ce pays autrement, sur d'autres bases, avec d'autres objectifs, où l'on commencerait par considérer que ce qui coûte trop cher dans ce pays, ce n'est pas le travail, c'est le capital.
Oui.
Je ne vous accepte pas que l'État représentant le pays tout entier renonce, comme c'est le cas aujourd'hui, à son devoir de pilotage de l'économie, abandonné au marché ou à des relations sociales totalement déséquilibrées et qui demain le seraient encore davantage si le texte tout bénéfice pour le MEDEF venait à être adopté tel quel par l'Assemblée nationale. Nous appelons les députés de gauche qui ont été élus non seulement par les voix des socialistes, qui, j'en suis certain, pour leur plus grand nombre, n'acceptent pas cet abandon, mais aussi par nous-mêmes, car ce sont aussi nos députés. Ils doivent refuser ce texte, ils doivent refuser d'abandonner l'homme et la femme au travail à la vindicte de leur rapport déséquilibré, où l'on lui arrache sans qu'il puisse résister d'aucune façon le revolver sur la tempe. Un accord où on réduit sa paye, on augmente ses heures de travail, sans qu'il ne puisse, comme auparavant, résister en refusant qu'on change son contrat de travail, car c'est cela qui est en cause dans le texte que le MEDEF a fait avaler à la faveur d'un traquenard dont le gouvernement porte la seule responsabilité. Car c'est lui qui l'avait convoqué, et c'est lui qui avait dit que si l'accord n'était pas signé, il déposerait un texte de loi. Que ne l'a-t-il fait connaître auparavant pour aider nos camarades syndicalistes, quels qu'ils soient, à avoir un meilleur rapport de force dans la négociation? Voilà la vérité. Votre gouvernement, celui du Front de gauche, ont intégré des travailleurs, ils ne les auraient pas attirés dans un tel traquenard. Eh bien, le gouvernement et l'État doivent assumer la responsabilité qu'ils portent non seulement devant l'instant présent, mais devant le futur de la patrie. Non, qu'on ne nous dise pas qu'après avoir tapé du poing sur la table à propos de PSA, où on avait raison de le faire, où il est criminel d'avoir supprimé la moitié des emplois prévus dans la recherche et développement compromettant l'avenir de la firme, mais où l'État n'avait aucune participation. Ensuite, lorsque les mêmes cas se présentent, ajoutés de menaces insupportables de chantage à l'emploi, l'État est actionnaire dans Renault, et c'est même le principal actionnaire. L'État doit faire son rôle, protéger les travailleurs de Renault et l'industrie automobile française. Alors, c'est son rôle. C'est ça que le gouvernement n'aurait jamais pu accepter, sans intervenir et se cachant pour qu'on ne le supprime pas dans cette vaste zone. Il n'aurait jamais dû abandonner l'ADS, fleuron de l'industrie aéronautique française, où se trouve concentré le meilleur de ce que nous avons fait, qu'ont accumulé nos ingénieurs et nos travailleurs hautement qualifiés pendant des années. Il n'aurait jamais dû abandonner la représentation des intérêts des Français par les actions qu'ils possèdent, à la représentation de M. Lagardère, jamais l'État n'aurait pu accepter que le capital de l'ADS soit dilué dans 70% de capital flottant. Voilà la vérité. Jamais l'État n'aurait pu accepter qu'Alcatel puissante, qui contient le meilleur de ce que les Français savent faire en télécommunication et téléphonie, jamais il n'aurait pu accepter que faute d'un petit milliard, Alcatel-Lucent aille s'endetter auprès de la terrible Goldman Sachs, banque qui possède déjà dans son conseil d'administration l'odieux M. Mittal. Banque pour chacun de ses camarades de la confiance. Eh bien, mes amis, mes camarades, le savez-vous, en dépôt de garantie de l'emprunt que fait Alcatel-Lucent pour pouvoir vivre, la banque Goldman Sachs a exigé que soient déposés en garantie les 27 000 brevets qui contiennent toute la connaissance des Français en matière de télécommunication. Goldman Sachs a exigé et obtenu qu'un capitaine du sang vende le fleuron de la couronne, c'est-à-dire la capacité pour les Français à faire fonctionner des câbles sous-marins en fibre optique qui représentent l'avenir pour nous de milliers d'industries et d'activités industrielles de haut niveau. Vous voyez, celui qui vous parle défend le futur, l'intelligence, la capacité que notre peuple aurait, fort de tous ses instruments, à déployer la planification écologique qui permet la conversion de notre industrie à la condition qu'on définanciarise l'économie française, que l'on chasse les fauteurs de troubles, embusqués des masques fallacieux qui viennent à Virgin en écrivant sur leur propre site. Nous prenons 5 ans, nous prenons le meilleur et nous partons après. Et c'est ce qu'ils viennent de faire en accusant les travailleurs de Virgin, comme l'a fait M. Calzac, de ne pas avoir dit à temps qu'il y avait un problème. Les syndicats l'ont fait. Ils sont prévenus. Ceux qui n'ont pas fait leur devoir, c'est ceux qui, le sachant, étant capables comme moi d'aller voir le site de ce fonds de placement, n'ont rien fait alors que s'approchait le moment du coup près et continuent à ne rien faire. Le rôle d'un gouvernement de gauche, du type de celui que nous voudrions constituer et animer, est de protéger, non par corporatisme ou pour affection par nos camarades en porte mais le droit d'en avoir, mais pour l'intérêt du pays et de son futur, les principaux moyens dont il dispose dans les matières les plus avancées de l'intelligence et du savoir-faire du travail.